Hardigan présente Cthulhu, le mythe. H.P. Lovecraft. Lu par Nicolas Planchet. L'horreur à Dunwich. Les gorgones, les hydres, les affreuses chimères, les histoires de Célano et des harpies peuvent se reproduire dans un cerveau superstitieux, mais elles y étaient auparavant. Ce sont des copies, des types. Les archétypes sont en nous, éternels. Autrement, comment le récit de ce que, dans l'état de veille, nous savons être faux, pourrait-il nous affecter le moins du monde? Serait-ce que, naturellement, nous prenons peur de tels objets considérés relativement à leur pouvoir possible de nous infliger une souffrance corporelle? Absolument rien de cela. C'est le dernier de nos soucis. Ces frayeurs-là ont une source plus ancienne. Elles sont antérieures à notre corps. Abstraction faite du corps, elles auraient été tout de même. Le fait que cette sorte d'épouvante en question ici est d'un ordre purement spirituel, que son empire est en proportion de son manque d'objets terrestres, qu'elle domine surtout à l'époque de la plus innocente enfance, voilà autant d'énigmes dont la solution pourrait nous ouvrir des jours sur notre condition antéterrestre, et tout au moins une lueur sur les royaumes éthérés de la préexistence. Charles Lamb, sur les sorcières et autres peurs nocturnes. 1. Lorsqu'un voyageur parcourant le centre nord du Massachusetts se trompe d'embranchement au carrefour du pic Aylesbury, juste après le virage du Doyen, il tombe sur une région étrange et isolée. L'altitude augmente, les parois rocheuses bordées de ronces en serrent de plus en plus les ornières du chemin tortueux. Les arbres des massifs forestiers omniprésents paraissent trop imposants, et les broussailles, buissons et mauvaises herbes présentent en ces lieux une vigueur surprenante pour une région habitée. Par ailleurs, les champs cultivés semblent étonnamment rares, arides, et les quelques maisons éparses ont toutes le même aspect étonnant, antiques, sordides et décrépits. Sans trop savoir pourquoi, on hésite à demander son chemin aux silhouettes solitaires et distordues qu'on aperçoit de temps à autre sur des seuils de pierres effriquées ou au milieu de pâtures pentues semées de rocs. Elles se montrent tellement silencieuses, fuyantes, qu'on a l'impression d'aborder un domaine interdit où demeurent des êtres auxquels, pressent-on, mieux vaut ne pas avoir affaire. Lorsqu'une nouvelle côte donne à voir les montagnes surplombant les bois denses, ce sentiment de malaise bizarre s'accroît. Les sommets en sont trop ronds, trop symétriques pour que s'en dégage l'impression de sérénité propre aux éléments naturels. Par moments, se détachent sur le ciel, avec une netteté particulière, les cercles étranges de grandes pierres levées qui en couronnent la plupart. Des gorges et des ravins d'une profondeur problématique coupent la route, et les grossiers ponts de bois qui les enjambent n'inspirent pas confiance. Lorsque le chemin redescend, on traverse alors des étendues marécageuses qui inspirent une répulsion instinctive. Et, disons-le, on a presque peur, quant au crépuscule, d'invisibles engoulevents bois pourris émettent leurs trilles, et qu'une profusion anormale de lucioles danse au rythme déplaisant, inquiétant et obsédant des croassements stridents des grenouilles taureaux. La miscatonique, près de sa source brille en une fine ligne et évoque de manière étonnante un serpent ondulant au pied des monts en dôme qui lui donne naissance. Quand on s'approche des collines, leurs flancs boisés s'imposent davantage au regard que leurs sommets cerclés de pierres. Ils sont si escarpés et sombres qu'on se prend à souhaiter de ne pas les voir de plus près. Mais aucun trajet ne permet de leur échapper. De l'autre côté d'un pont couvert, on remarque un hameau blotti entre le torrent et la pente verticale du mont Rond, et on reste ébahi devant ce rassemblement de toits pourrissants, dont la conception à pente brisée trahit une architecture plus ancienne que celle de la région environnante. De plus près, on constate avec une certaine inquiétude que la plupart des maisons sont abandonnées et tombent en ruine, et que l'unique semblant de commerce du village se situe dans une église dont la flèche est brisée. On appréhende les ténèbres du pont couvert, mais on n'a pas le choix. Passé sur l'autre rive, on croit sentir une odeur désagréable flottant dans les rues, faible mais persistante, celle de l'accumulation séculaire de moisissures et de décomposition. On est toujours soulagé de s'éloigner de cet endroit pour contourner sur la route étroite la base des collines et traverser la campagne plate au-delà, jusqu'au pic d'Alesbury. Par la suite, on apprend parfois à avoir traversé Dunwich. Les étrangers visitent le moins possible ce bourg. Depuis une certaine saison de terreur, toutes les pancartes l'indiquant ont été arrachées. Et si on s'en tient au canon esthétique ordinaire, le paysage est d'une beauté rare. Et pourtant, ni artiste ni estivant ne s'y presse. Deux siècles auparavant, quand on pouvait encore parler de lignées de sorcières, d'adorations sataniques ou d'étranges présences dans la forêt, sans déclencher de moqueries, les arguments pour éviter les parages ne manquaient pas. À notre époque de raison, et dans la mesure où les événements horrifiques de 1928 à Dunwich ont été étouffés par ceux qui avaient à cœur le bien du hameau, du monde, les gens s'en tiennent éloignés sans trop savoir pourquoi. Peut-être cela tient-il en partie, même si cette raison ne vaut pas pour les étrangers au pays, à la répugnance qu'inspirent les autochtones. Ces derniers sont allés très loin dans la dégénérescence, si commune aux coins reculés de Nouvelle-Angleterre, jusqu'à former une véritable race, définie sans équivoque par les stigmates physiques et mentaux qu'entraîne la consanguinité. En moyenne, leur intelligence est déplorable, et les annales locales regorgent d'histoires nauséabondes de malveillances flagrantes, de meurtres et d'incestes à demi camouflés, ainsi que d'actes pervers et brutaux presque jusqu'à l'indicible. La petite noblesse locale, représentée par deux ou trois familles blasonnées implantées là après avoir quitté Salem en 1692, s'est plus ou moins maintenue au-dessus de la décrépitude générale, même si plusieurs de ces branches se sont si intimement commises avec la populace sordide que seul leur nom persiste à indiquer les hautes origines qu'ils déshonorent. Certains Whiteley et Bishop envoient encore leur fils aîné étudier à Harvard ou Miskatonic, mais ces derniers reviennent ensuite rarement vivre sous les toits moisis à pente brisée où ils sont nés, eux et leurs ancêtres. Personne, même ceux au fait de l'horreur qui s'est récemment produite à Dunwich, ne peut expliquer au juste l'origine du malaise qu'on éprouve à cet endroit. Toutefois, d'antiques légendes relatent des rites impies, des rassemblements d'Indiens invoquant sur les grandes collines rondes d'obscures formes bannies et se livrant à d'orgiaques rites sauvages auxquels répondaient, émanant de l'intérieur de la terre, craquements et éboulements retentissants. En 1747, le révérend de l'église congrégationniste Abijah O'Hadley, nouvellement en charge de la paroisse, fit un prêche mémorable sur la proximité de Satan et de ses suppôts, dans lequel il disait « Il est indéniable que ces infernales hordes blasphématoires de démons constituent un problème reconnu. Plus d'une vingtaine de témoins honorables vivant parmi nous attestent avoir oui, résonnant sous la terre, les voix maudites d'Azazel, de Buzraël, de Belzébuth, de Bélial. Moi-même, voici seulement 2 semaines, j'ai surpris une discussion entre ces puissances maléfiques dans la colline derrière ma demeure. Elle retentissait de claquements, de grondements, de grognements, de crissements et de sifflements qu'aucun être de notre terre n'aurait pu produire et qui devait donc provenir de cavernes que seule la magie noire peut faire apparaître, seul le diable peut ouvrir. Le père O'Hadley disparut peu de temps après avoir prononcé ce sermon, mais le texte imprimé à Springfield est parvenu jusqu'à nous. D'année en année, on rapporte toujours des bruits étranges dans les collines, qui restent une énigme pour les géologues et les géographes. D'autres légendes évoquent des odeurs pestilentielles senties à proximité des cercles de pierres levées au sommet des collines, ainsi que de légers bruits entendus dans des endroits bien précis au fond des ravins encaissés et qui témoigneraient du passage de créatures invisibles. Tandis que d'autres encore tentent d'expliquer l'état de la parcelle saute-diable, une sinistre pente dévastée où rien ne pousse, ni arbre, ni buisson, ni même le plus petit brin d'herbe. Précisons aussi que les habitants de Dunwich ressentent une terreur mortelle devant la multitude d'engoulevents qui donnent de la voix par certaines nuits douces. Ils jurent que ces oiseaux psychopompes, toujours à l'affût des âmes des mourants, complotent pour pousser leur trille tous ensemble au moment précis où l'agonissant rend son dernier soupir. S'ils parviennent à s'emparer de l'esprit, lorsqu'ils se détachent du corps, ils s'envolent sur le champ en poussant des cris d'hilarité démoniaque. S'ils échouent, ils sombrent peu à peu dans un silence déçu. Ces contes, il va de soi, sont dépassés, ridicules, reliques de temps très lointains. Par le fait, Dunwich est scandaleusement ancien, bien plus que tous les villages situés à 50 kilomètres à la ronde. Au sud du hameau, on distingue encore les murs et la cheminée de l'antique maison Bishop, bâtie avant 1700, tandis que les ruines du moulin près des chutes, datant de 1806, constituent l'édifice le plus moderne du lieu. L'industrie n'a pas prospéré ici, et l'essor des manufactures au XIXe siècle s'est révélé un feu de paille. Et plus vieux encore, s'élèvent sur les collines les immenses cercles de pierre grossièrement taillés, qu'on attribue en général aux Indiens plutôt qu'aux colons. Les amas de crânes et d'ossements découverts à l'intérieur de ces cercles et à proximité du gros rocher tabulaire en haut de Sentinel Hill alimentent la croyance populaire selon laquelle ces lieux abritaient autrefois les cimetières des Pocumtuk. Pourtant, nombre d'ethnologues, sans considération aucune pour l'absurdité d'une telle théorie, persiste à affirmer que ces restes proviennent d'hommes blancs. 2. C'est sur la commune de Dunwich, dans un grand corps de ferme à moitié inhabité accolé à un flanc de colline, situé à 6,5 kilomètres du village et à 2,5 de l'habitation la plus proche, que Wilbur Whately naquit à 5 heures le dimanche 2 février 1913. Cette date a marqué les mémoires. D'une part, il s'agissait de la Chandeleur, que les gens de Dunwich fêtent sous un autre nom. D'autre part, d'affreux bruits avaient retenti dans les montagnes et tous les chiens à la ronde avaient aboyé avec obstination durant la nuit. Un autre fait moins digne d'intérêt était l'identité de la mère, membre d'une branche dégénérée des Whately. C'était une albinos laide et plus ou moins bossue, âgée de 35 ans, vivant avec son père à moitié sénile sur qui, dans sa jeunesse, avait couru les plus terribles rumeurs de sorcellerie. On ne connaissait pas d'époux à Lavinia Whately, mais comme il est usage dans la région, elle ne fit rien pour renier cet enfant. Les villageois pouvaient spéculer tout leur soûl sur l'identité de son père. Ils ne s'en privèrent pas. Bien au contraire, elle paraissait étrangement fière de ce nourrisson dont le teint bistre et le faciès caprin formaient un tel contraste avec sa peau maladive et ses yeux roses d'albinos, on l'entendit marmonner fort ces prophéties étranges concernant les pouvoirs insolites du petit et son avenir prodigieux. Ces déclarations semi-articulées n'étonnèrent guère de la part d'une créature solitaire portée à errer dans les collines au milieu des tempêtes, qui s'efforçait de lire les grands volumes à l'odeur de moisi dont son père avait hérité de 200 ans d'ancêtre Watley, à moitié désagrégé sous l'action conjuguée du temps et des vers. Elle n'avait jamais connu les bancs de l'école, mais avait eu la tête farcie des bribes éparses du savoir ancien enseigné par le vieux Watley. On évitait depuis toujours cette ferme isolée, dont le maître était réputé pratiquer la magie noire. La mort violente et jamais résolue de Madame Watley, quand sa fille avait 12 ans, n'avait pas aidé à réhabiliter l'endroit. Isolée dans cet environnement bizarre, Lavinia s'adonnait à d'extravagantes rêveries et à des occupations insolites. Son temps n'était guère accaparé par les soins du ménage dans cette demeure, où toute notion d'ordre et de propreté avait depuis longtemps disparu. La nuit où naquit Wilbur, on entendit retentir des hurlements atroces qui couvrirent les bruits dans les collines et les clameurs des chiens. Mais à la connaissance des villageois, aucun médecin, aucune sage-femme n'aidèrent sa venue au monde. Les voisins ne surent rien de l'enfant avant une semaine, quand le vieux Watley fit glisser son traîneau dans la neige jusqu'au bourg et tint des propos incohérents à l'adresse des clients dans l'épicerie d'Osborne. Un changement paraissait à l'œuvre chez le vieillard, une espèce de soumission dans son cerveau embrumé qui, subtilement, donnait l'impression qu'après avoir tant dispensé la crainte, il la ressentait désormais. Pourtant, il n'était pas homme à se laisser impressionner par un événement familial quelconque. Au cœur de ses perturbations, il affichait la même fierté qu'on remarque par la suite chez sa fille, et plusieurs de ceux qui l'entendirent ce matin-là se rappelèrent bien des années plus tard ses révélations concernant le père de l'enfant.
« M'en fiche de ce qu'en pensent les gens, si le gosse de Lavigny ressemblait au papa. » L'aurait en rien de l'allure qu'on croirait. Pas la peine de penser que les seules gens, c'est les seuses du coin. Lavigny, elle l'eut pas mal. Elle l'a vu des choses que vous faites qu'en parler. Je crois que son homme y vaut ben ce qu'on trouve de ce côté d'Alesbury. Et si vous en saveriez autant sur les collines que moi, vous chercheriez pas de meilleure église pour les épousailles. Je vais vous dire, un jour, les croquants, vous entendrez un gosse de Lavigny beugler le nom de son père en haut de Sentinelle Hill. »
Les seules personnes qui virent Wilbur durant le premier mois de son existence furent le vieux Zecharia Watley, de la branche non dégénérée de la famille, et la compagne d'Earl Sawyer, Mamie Bishop. La visite de cette dernière n'était motivée que par la curiosité, et les récits qu'elle en fit par la suite furent à la hauteur de ses observations. Mais Zecharia, lui, était venu apporter 2 vaches d'Alderney que le vieux Watley avait achetées à son fils Curtis. Cette transaction marqua le début d'une longue série d'achats de bétail de la part de la famille du petit Wilbur. Ils ne prirent pas fin avant 1928, quand se manifesta puis disparut l'horreur à Dunwich. Et pourtant l'étable décrépite des Watley ne sembla à aucun moment surpeuplée. Pendant une période, les rumeurs excitèrent suffisamment la curiosité de certains habitants du bourg pour les pousser à épier le troupeau qui paissait, dangereusement perché sur le front abrupt de la colline surplombant l'antique corps de ferme. Ils ne comptèrent jamais plus de 10 ou 12 bêtes anémiques qu'on aurait cru vidées de leur sang. De toute évidence, un dérangement ou une maladie quelconque, peut-être dû au pâturage peu sain ou à la présence de champignons toxiques dans le bois de l'infecté étable, causait la mort de beaucoup de ces animaux chez les Watley. Apparemment, des plaies bizarres rappelant des incisions accablaient le bétail. À une ou deux reprises pendant les premiers mois, certains visiteurs imaginèrent distinguer des marques similaires sur les gorges du vieillard barbu au teint grisâtre et de sa fille albinos aux cheveux crépus et bourriffés. Le printemps qui suivit la naissance de Wilbur, Lavinia reprit ses errances coutumières dans les collines, avec dans ses bras disproportionnés son enfant basané. L'intérêt pour les Watley retomba quand la plupart des villageois eurent vu le bébé, et personne ne se donna la peine de gloser sur les développements rapides dont le nourrisson donnait des preuves quotidiennes. La croissance de Wilbur était en effet phénoménale. 3 mois après sa naissance, il avait la carrure et la force musculaire d'un enfant de 1 an. Ses mouvements et même les sons qu'il émettait témoignaient d'un contrôle et d'une volonté très insolites chez un bambin. Personne ne fut vraiment surpris quand, à 7 mois, il commença à marcher sans aide. Le chancellement de ses pas disparut en 3 ou 4 semaines. Ce fut quelque temps plus tard, à Halloween, qu'on distingua à minuit un immense brasier au sommet de Sentinel Hill, là où la grande pierre autel tabulaire se dresse au milieu de son tumulus d'anciens ossements. Les discussions allèrent bon train quand Silas Bishop, de la branche non dégénérée des Bishop, raconta avoir vu le gosse gravir d'un bas décidé cette même colline devant sa mère 1 heure environ avant qu'on remarque l'incendie. Silas ramenait alors une génisse égarée, mais il faillit oublier sa mission en apercevant les 2 silhouettes furtives à la faible lueur de sa lanterne. Elle filait presque sans aucun bruit à travers les broussailles. Le témoin, étonné de la scène, eut l'impression qu'elles étaient entièrement dévêtues. Par la suite, il eut des doutes concernant l'enfant, qui portait peut-être une espèce de ceinture à franges et un pantalon foncé. Par la suite, on ne vit plus jamais Wilbur vivant et conscient sans une tenue complète bien boutonnée, et la simple menace d'un désordre dans ses habits semblait le plonger dans une colère et une inquiétude extrême. On commenta beaucoup le contraste de son apparence soignée par rapport à celle de sa mère et de son grand-père si négligé, jusqu'à ce que l'horreur de 1928 fournisse une raison parfaitement logique à son attitude. Au mois de janvier suivant, les commères ne trouvèrent qu'un intérêt limité au fait que le « noireau de Lavinia » commence à parler à seulement 11 mois. Son discours se révéla cependant remarquable, d'une part parce que son accent différait de celui de la région, et de l'autre parce qu'il était dépourvu du moindre zozotement puéril, ce que beaucoup d'enfants de 3 ou 4 ans auraient pu lui envier. Le petit garçon ne se montrait guère bavard, mais ses paroles donnaient toujours l'impression qu'il disposait de mystérieux éléments d'information absolument inaccessibles aux habitants de Dunwich. L'étrangeté ne provenait pas de ce qu'il disait, ni du vocabulaire simple qu'il employait, mais paraissait plus ou moins lié à son intonation ou aux organes internes qui produisaient les sons. Son visage lui aussi présentait une maturité étonnante, même s'il partageait l'absence de menton de sa mère et de son grand-père, son nez à la forme prématurément affirmée, associé à l'expression de ses grands yeux sombres presque latins, lui conférait une allure presque adulte et faisait pressentir chez lui une intelligence quasi surnaturelle. Pour autant, malgré cette apparence d'individu brillant, il était fort laid. Il y avait quelque chose de presque caprin, ou en tout cas d'animal, dans ses lèvres épaisses, sa peau jaunâtre aux larges pores, ses cheveux rêches et crépus, et ses oreilles curieusement allongées. On ne tarda pas à le trouver encore plus antipathique que sa mère et son grand-père, et toutes les suppositions qu'on faisait sur son compte étaient pimentées d'allusions à la magie antique du vieux Watley, et à la manière dont il avait une fois fait trembler un énorme livre ouvert sur ses bras tendus. Les chiens exécraient l'enfant, qui devait constamment trouver des moyens de se défendre contre leurs aboiements menaçants. 3. Pendant ce temps, le vieux Watley continuait à acheter du bétail sans paraître augmenter les effectifs de son troupeau. Il commença aussi à couper du bois et à réparer les parties inutilisées de sa demeure, une grande bâtisse au toit pointu dont l'arrière s'enfonçait dans le flanc rocheux de la montagne. Les trois pièces les moins délabrées du rez-de-chaussée leur avaient pourtant toujours suffi, à lui et à sa fille. Ce vieillard devait disposer d'extraordinaires ressources physiques pour abattre autant de labeurs pénibles. Et même si de temps à autre il tenait encore des propos déments, son ouvrage de charpentier donnait tout l'air de résulter de calculs bien pensés. Le chantier avait en fait débuté dès la naissance de Wilbur, avec la remise en état soudaine d'un des multiples cabanons à outils du domaine, sur lequel le vieux Watley avait en outre installé des volets et un solide verrou tout neuf. Il se montra un artisan tout aussi soigneux dans la restauration de l'étage abandonné de la maison. Sa folie ne se manifesta en l'occurrence que dans son choix d'aveugler complètement l'ensemble des fenêtres de la partie réhabilitée. Toutefois, beaucoup estimèrent insensé de se donner seulement la peine de réaliser de tels travaux. Un autre ouvrage plus compréhensible consistant en la rénovation d'une autre pièce au rez-de-chaussée pour son petit-fils. Plusieurs visiteurs purent la voir, mais aucun ne fut jamais admis à l'étage désormais clos. Le vieillard plaça dans la chambre d'enfant de hautes et solides étagères dans lesquelles il entreprit de ranger, selon un ordre apparemment réfléchi, les antiques tomes pourrissants, entiers ou mutilés, que, en son temps, il avait laissé traîner dans tous les coins de la maison.
« Je les ai bien utilisés »,
déclarait-il en s'efforçant de recoller une page déchirée couverte de caractères noirs, avec de la pâte préparée sur le fourneau rouillé.
« Mais le garçon en aura mieux l'usage, autant qu'il en profite, parce qu'il n'aura point d'autre école. »
Quand Wilbur eut 1 an et 7 mois, on en était où en septembre 1914. Sa taille et ses capacités avaient presque de quoi inquiéter. On lui aurait donné 4 ans. Il s'exprimait aisément avec une intelligence prodigieuse. Il courait à sa guise dans les champs et les collines et accompagnait sa mère lors de ses promenades. À la maison, il étudiait de près les images et les graphiques des livres de son grand-père qui, de son côté, au cours de longs après-midi, lui dispensait à mi-voix enseignements et endoctrinements. À cette époque, la restauration de la maison était achevée, et ceux qui l'observaient se demandaient pourquoi on avait transformé l'une des fenêtres de l'étage en une porte massive. Cette issue donnait sur l'arrière, sous le toit à pente brisée tout près de la colline, et personne ne comprenait l'usage d'une rampe en bois renforcée qui reliait à présent l'ouverture au sol. Lorsque la restauration fut terminée, les curieux remarquèrent que le vieux cabanon à outils verrouillés et aveuglés depuis la naissance de Wilbur était de nouveau à l'abandon. La porte en bâillait mollement et, quand Earl Sawyer, un jour, pénétra à l'intérieur après une de ses ventes de bétail au vieux Watley, l'odeur étrange qu'il respira le fit presque s'évanouir. Il assura n'avoir jamais senti pareille puanteur de toute sa vie, sauf à proximité des cercles de pierres indiens sur les collines. Rien de sain, ni même né sur terre, n'aurait pu en être à l'origine. D'un autre côté, les habitations et les dépendances de Dunwich n'ont jamais brillé par leur pureté olfactive. Les mois suivants furent vierges d'événements notables. Mis à part que chacun aurait juré constater une augmentation lente mais régulière des bruits mystérieux dans les collines. Lors de la nuit de Valpurgis de 1915, on ressentit des secousses sismiques jusqu'à Aylesbury, et le Halloween suivant fut marqué par un grondement souterrain bizarrement synchronisé avec des jaillissements de flammes au sommet de Sentinel Hill. On attribua ces sorciers de Watley. Wilbur grandissait étrangement vite. Entrant dans sa 4e année, il avait l'apparence d'un enfant de 10 ans. Désormais, il lisait avec avidité, mais il parlait encore moins qu'avant. Il était résolument taciturne, Et c'est à cette époque que les gens commencèrent à évoquer sans se cacher l'expression démoniaque visible sur sa face caprine. Il lui arrivait de marmonner dans un jargon inconnu, de psalmodier sur des rythmes bizarres, emplissant quiconque l'entendait d'un sentiment de terreur inexplicable. La haine que lui portaient les chiens suscitait désormais de nombreux commentaires, et il devait porter une arme à feu sur lui afin de s'assurer sa sécurité quand il circulait dans la campagne. Il lui arriva de l'utiliser, ce qui n'améliora pas sa popularité chez les propriétaires de compagnons canins. Les rares visiteurs des Watley trouvaient souvent Lavinia seule au rez-de-chaussée, tandis que des cris et des piétinements étranges résonnaient à l'étage barricadé. Elle ne disait jamais ce que son père et son fils faisaient là-haut, mais en une occasion, elle blêmit et manifesta une crainte disproportionnée quand un poissonnier itinérant facétieux fit mine d'ouvrir la porte verrouillée menant à l'escalier. Par la suite, l'homme raconta au client de l'épicerie du village qu'il avait cru entendre un cheval battre des sabots sur le parquet au-dessus. L'auditoire réfléchit, se rappela la porte à l'étage avec sa rampe et le bétail qui disparaissait à une telle vitesse. Puis tous frémirent en se remémorant les récits de la jeunesse du vieux Watley et les êtres monstrueux qui surgissent de terre lorsqu'on sacrifie au moment propice un bœuf à des dieux païens. Cela faisait quelque temps qu'on avait remarqué l'aversion et la crainte croissante des chiens envers l'ensemble du domaine Watley, aussi forte que celle qu'ils manifestaient contre le jeune Wilbur. En 1917, le pays entra en guerre. Le chevalier Sawyer Watley, en tant que responsable du bureau de conscription de la région, eut beaucoup de mal à trouver sur Dunwich un quota suffisant d'hommes qu'on put seulement envoyer en camp de sélection. Le gouvernement, inquiet de ce que cette situation impliquait peut-être une dégénérescence régionale massive, y missionna plusieurs officiers et experts médicaux afin d'investigation. Ils menèrent une enquête que les lecteurs des journaux de la Nouvelle-Angleterre se rappellent peut-être encore. Le retentissement de l'événement mit les journalistes sur la trace des Watley et incita le Globe de Boston, comme l'Advertiser d'Arkham, à publier dans leur supplément du dimanche des reportages chargés de superlatifs sur la précocité du jeune Wilbur, la magie noire de son grand-père, les étagères chargées de livres mystérieux, l'étage aveuglé de l'antique corde ferme, et l'étrangeté de l'ensemble de la région avec ses grondements sous les collines. Wilbur avait alors 4 ans et demi. On lui en aurait donné 15. Ses lèvres et ses joues disparaissaient sous un duvet noir et rêche, et sa voix avait commencé à muer. Earl Sawyer se rendit chez les Watley, avec des équipes de reporters et des photographes des deux journaux, et leur fit remarquer l'insolite puanteur qui semblait désormais émaner des espaces clos du premier étage. C'était, affirma-t-il, exactement la même qu'il avait sentie dans le cabanon abandonné après l'achèvement des travaux de restauration, et la même dont il avait parfois cru percevoir les relents à proximité des cercles de pierre dans les collines. Les gens de Dunwich lurent les articles à leur parution, et ricanèrent devant les erreurs évidentes qu'ils comportaient. Ils se demandèrent aussi pourquoi leurs auteurs avaient été si intrigués par le moyen dont le vieux sorcier réglait systématiquement ses achats de bétail, en pièces d'or très anciennes. Les Watley avaient reçu leurs visiteurs avec une répugnance mal dissimulée, mais ils avaient craint davantage la publicité. Ils se seraient ensuivis s'ils avaient usé de violence ou refusé de parler. 4. Pendant une dizaine d'années, l'histoire des Watley se résuma à la vie quotidienne d'une famille malsaine enfoncée dans ses habitudes étranges, qui atteignaient leur paroxysme lors des célébrations perverses de Walpurgis et de Halloween. 2 fois par an, ils allumaient des feux au sommet de Sentinel Hill, et les grondements sous la montagne en ces occasions reprenaient avec une violence accrue. Mais des phénomènes bizarres et de mauvais augure se manifestaient en toute saison dans ce domaine isolé. Au fil du temps, de plus en plus de visiteurs affirmèrent avoir entendu du bruit à l'étage barricadé, même quand toute la famille se trouvait au rez-de-chaussée. On se demandait quel laps de temps, bref ou long, prenait au juste le sacrifice d'une vache ou d'un bœuf chez les Watelets. Il fut question d'alerter la société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, mais ce débat n'aboutit à rien, car les gens de Dunwich appréhendaient toujours d'attirer l'attention du monde extérieur sur eux. Vers 1923, Wilbur était alors un garçon de 10 ans dont l'esprit, la voix, la stature et le visage barbu donnaient tous les indices de la maturité. Un second grand chantier de charpente fut entrepris dans l'antique maison. Tout se passa à l'étage barricadé. Les gens déduisirent des morceaux de bois mis au rebut que le jeune et le vieux Watelet avaient abattu toutes les cloisons intérieures et même ôté le plancher du grenier, ne laissant qu'un vaste espace ouvert entre le rez-de-chaussée et le toit pointu. Ils avaient également démoli la grande cheminée au milieu et fixé au fourneau de cuisine rouillé un frêle tuyau de poêle qui longeait le mur à l'extérieur. Au printemps suivant ces travaux, le vieux Watelet remarqua que la nuit, de plus en plus d'engoulevent quittait la combe à aigues froides pour venir piailler sous la fenêtre de sa chambre. Il parut en tirer des conclusions importantes et annonça au client de l'épicerie Osborne qu'il pensait son temps bientôt venu.
« Il siffle pile avec mon sous-plasteur, » déclara-t-il, « et je crois qu'il se prépare à me prendre l'âme. Ils savent qu'elle va sortir et ils comptent pas la rater. Vous verrez, gars, après que je serai parti, s'ils ont réussi à m'attraper. Si oui, ils vont chanter et c'est ce maudit jusqu'au jour. Sinon, ils vont se tenir plus à carreau. Je me dis que des fois entre eux et les âmes qui chassent, il y a du sacré grabuge. »
La nuit de la fête de la moisson en 1924, Wilbur Watelet appela en toute hâte le docteur Houghton d'Aylesbury. Il avait sellé le dernier cheval du domaine, traversé au galop la campagne dans le noir et téléphoné depuis l'épicerie d'Osborne au village. Le médecin trouva le vieux Watelet en piteux état. Le battement irrégulier de son cœur et sa respiration stertoreuse indiquaient une fin prochaine. La fille albinos sans grâce et le petit-fils bizarrement barbu se tenaient au chevet du vieillard, tandis que, depuis le vaste espace vide au-dessus, provenait une rumeur perturbante, évoquant un déferlement liquide ou un clapotis rythmé, comme le bruit des vagues frappant le rivage. Mais ce qui marqua le plus le visiteur, ce fut le jacassement des oiseaux nocturnes dehors. Une légion apparemment innombrable d'engoulevents criait avec obstination leur message diabolique, en rythme avec les râles de l'homme à l'agonie. C'était sinistre et anormal, bien trop à l'image, songea le docteur Houghton. De toute cette région dans laquelle il avait pénétré bien malgré lui après avoir reçu l'appel d'urgence. Vers 1 heure, le vieux Watelet reprit conscience et consacra ses dernières forces à prononcer quelques mots étranglés à l'adresse de son petit-fils.
« Vas-y de l'espace, Willy, s'entraîner, tu pousses et ça aussi plus vite. Ça sera bientôt prêt à te servir, petit. » Ouvre les portes de Yog Soto, avec la longue psalmodie que tu trouveras page 751 de l'édition complète. Et puis fous le feu à la prison. Le feu de la terre peut pas brûler ça maintenant.
De toute évidence, il avait sombré dans la folie. Il se tut un moment, la troupe d'engoulevents au dehors adapta ses cris au rythme saccadé de la respiration du vieillard, tandis que, les étranges bruits des collines commençaient à s'entendre faiblement dans le lointain. Puis le mourant ajouta encore 2 ou 3 phrases.
« Nourris ça bien, Willy. Pleure pas la quantité. Mais laisse pas ça pousser trop vite pour son coin. Parce que si ça casse son logis ou sort avant que t'as ouvert à Yog Sothoth, t'es tout foutu. Seuls ceux de l'au-delà peuvent faire ça, se multiplier et travailler. Eux seuls, les anciens qui veulent revenir.
Mais son souffle se fit de nouveau haletant et il dut s'interrompre. Lavinia hurla en entendant les cris des engoulevents suivre ce nouveau changement. L'agonie dura encore plus d'une heure, jusqu'au dernier soupir rauque. Le docteur Houghton ferma les paupières flétries sur les yeux gris vitreux, tandis que le tumulte des oiseaux s'éteignit peu à peu pour laisser place au silence. Lavinia éclata en sanglots, mais Wilburg ricana tandis que les collines grondaient faiblement.
« Ils l'ont pas eu !» chuchota-t-il de sa grosse voix grave.
À cette époque, Wilbur était devenu un savant d'une prodigieuse érudition dans certains domaines. Il s'était peu à peu fait connaître par correspondance auprès de nombreux conservateurs de bibliothèques dans des endroits lointains où l'on garde d'anciens ouvrages rares et interdits. Autour de Dunwich, on le haïssait et on le craignait de plus en plus à cause de la disparition de quelques jeunes gens dont la rumeur publique le rendait plus ou moins responsable. Mais il parvenait toujours à faire taire les questions grâce à la peur qu'il inspirait, ou grâce à son fond d'or antique qui, comme au temps de son grand-père, servait régulièrement aux achats de bétail, lesquels augmentaient régulièrement. Il avait désormais une apparence stupéfiante de maturité, et après avoir atteint la taille moyenne d'un adulte, semblait devoir encore grandir, au point de largement la dépasser. En 1925, quand un correspondant de l'université miscatonique vint un jour lui rendre visite et repartit le teint blême, l'expression perplexe, Wilbur Whately mesurait bien 2 mètres. Au fil des ans, il avait traité sa mère albinos et bossu avec un mépris croissant, pour finalement lui interdire de courir les collines avec lui lors de la nuit de Valpurgis et de la Toussaint. En 1926, la malheureuse créature avoua à Mamie Bishop qu'elle avait peur de lui.
« J'en sais plus sur lui que je peux dire, Mamie, » déclara-t-elle, « et maintenant je sais plus tout sur lui. Jure devant Dieu que je sais pas ce qu'il veut ou ce qu'il essaie de faire. »
Et cet Halloween-là, les collines grondèrent plus fort que jamais, et le brasier brûla comme de coutume en haut de Sentinel Hill. Mais les gens s'intéressèrent davantage au piaillement rythmique d'un vaste rassemblement d'engoulevents qui s'était anormalement attardé dans la région pour la saison. Ils s'étaient massés à proximité de la ferme des Whately plongée dans l'obscurité. Après minuit, leurs cris perçants se muèrent en une sorte d'hilarité tonitruante qui emplit toute la campagne et ne se calma pas avant l'aube. Puis ils disparurent, entreprenant leur migration vers le sud avec un bon mois de retard. Personne ne pouvait être sûr de ce que cela signifiait avant d'avoir vérifié. Aucun des habitants de la région, apparemment, n'était mort. Mais personne ne revit plus jamais la malheureuse Lavinia Whately, l'albinos bossu. Durant l'été 1927, Wilbur répara 2 remises de la ferme et entreprit d'y déménager ses livres et ses affaires. Peu de temps après, Earl Sawyer apprit aux clients de l'épicerie d'Osborne qu'on avait entamé de nouveaux travaux de menuiserie à la ferme Whately. Wilbur barricadait les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée et semblait y abattre toutes les cloisons intérieures, comme lui et son grand-père l'avaient déjà fait à l'étage 4 ans auparavant. Il vivait désormais dans une de ces remises, et Sawyer le trouvait inhabituellement inquiet et agité. D'une manière générale, on le soupçonnait d'être pour quelque chose dans la disparition de sa mère, et très peu, désormais, approchait sa demeure. Il mesurait près de 2,20 mètres, et rien n'indiquait que sa croissance soit terminée.
V.
L'hiver suivant se produisit un événement des plus insolites. Le premier voyage de Wilbur hors de la région de Dunwich. Et ses requêtes par correspondance à la bibliothèque Wildener de Harvard, la Bibliothèque nationale de Paris, le British Museum, l'Université de Buenos Aires et la bibliothèque de l'université miskatonique d'Arkham n'avait pu lui obtenir le prêt d'un livre dont il avait désespérément besoin. Aussi se résolut-il à se présenter en personne, mine négligée d'une propreté douteuse, barbe profuse, le langage d'un rustre, afin de consulter l'exemplaire de miskatonique le plus proche de lui géographiquement parlant. C'est ainsi que cette gargouille noiraude à face caprine de 2,50 m, porteur d'une valise de mauvaise qualité toute neuve achetée à l'épicerie d'Osborne, apparut un jour à Arkham, en quête du tome redouté gardé sous clé à la bibliothèque de l'université. L'atroce Necronomicon de l'arabe dément Abdul al-Azred, dans la traduction d'Alaus Vormius publiée en Espagne au XVIIe siècle. Wilbur n'avait encore jamais vu de ville, mais rien ne le détourna de son chemin jusqu'à l'université. Une fois là-bas, il passa sans y prendre garde devant le gros chien de garde au croc étincelant qui lui aboya dessus avec une fureur démesurée en tirant comme un fou sur la lourde chaîne. Wilbur avait apporté avec lui l'exemplaire inestimable mais incomplet de la traduction anglaise de l'ouvrage par le docteur Dee, que lui avait légué son grand-père. Ayant obtenu l'accès au livre en latin, il entreprit sur le champ de comparer les deux textes dans le but de repérer un passage bien particulier qui aurait dû se trouver à la page 751 de son exemplaire fragmentaire. Il lui aurait été difficile, sans se montrer excessivement grossier, de refuser de répondre au conservateur de la bibliothèque, le même érudit Henry Armitage, diplômé de miskatonique, docteur en philosophie de Princeton et en littérature de John Hopkins, qui lui avait un jour rendu visite à la ferme et qui à présent l'assaillait de questions polies. Wilbur dut reconnaître qu'il recherchait une espèce de formule ou une incantation dans laquelle apparaîtrait le nom redouté de Yog-Sothoth, et se retrouvait un peu perdu à cause de plusieurs divergences, répétitions et ambiguïtés qui compliquaient beaucoup sa tâche d'identification. Alors que le jeune Whateley recopiait la formule sur laquelle son choix s'était finalement arrêté, le docteur Armitage derrière lui jeta un coup d'œil involontaire sur le livre ouvert et constata que la page de gauche, dans la traduction latine, comportait une monstrueuse menace contre la tranquillité et la santé spirituelle du monde. « Il importe aussi de ne pas croire, » lut Armitage en traduisant mentalement, « que l'homme soit le plus ancien ou le dernier à venir des maîtres de la terre, ou que la visite et la matière ordinaire soient les seuls à fouler le sol. Les anciens furent, les anciens sont, les anciens seront. Ils ne vivent pas dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux, et marchent sereins, premiers, hors de nos dimensions et invisibles à nos yeux. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Passé, présent, avenir, sont un en Yog-Sothoth. Il sait où, autrefois, les anciens ont franchi la brèche, et où ils la franchiront encore. Il sait où ils ont foulé les champs de la terre, et où ils les foulent encore, et pourquoi nul ne les voit quand ils les foulent. Parfois près d'eux, on les reconnaît à leur odeur. Mais de leur aspect, nul ne sait rien, sauf lorsqu'ils sortent. Allant de la ressemblance avec la véritable image de l'homme à la forme invisible et sans substance qui les caractérise. Ils errent sans qu'on les voie, empestant les lieux solitaires où les mots furent prononcés et les rites hurlés lors de leur saison. Le vent jargonne de leur voix, la terre grommelle de leur conscience. Ils ploient la forêt et broient la cité. Pourtant, ni forêt ni cité ne voient la main qui les frappe. Kadath, dans les froides étendues perdues. Les a connus, et qui désormais connaît Kadat? Dans le désert de glace du sud, et les îles englouties sous l'océan, gisent des pierres où leur sceau est gravé. Mais qui a vu la ville figée dans la glace, ou la tour scellée que depuis longtemps enguirlande algues et bernacles? Le grand Cthulhu est leur cousin. Pourtant, il ne peut guère que les apercevoir. Ya, Shibug Nigurat, tu les reconnaîtras à leur pestilence. Leur main est sur ta gorge, et pourtant tu ne les vois pas. Et leur demeure se confond avec ton seuil défendu. Yog-Sothoth est la clé de la porte, là où se joignent les sphères. L'homme règne à présent où autrefois il régnait. Bientôt ils régneront où à présent règne l'homme. Après l'été, l'hiver. Après l'hiver, l'été. Ils attendent, patients et puissants, car ils régneront encore. Le docteur Armitage, mettant en relation ce qu'il venait de lire avec ce qu'il avait entendu dire au sujet des phénomènes inquiétants qui se manifestaient à Dunwich, ainsi qu'au sujet de Wilbur Whately et de la sombre et hideuse aura qui l'entourait depuis sa naissance improbable, jusqu'au soupçon de matricide pesant sur lui, ressentit une vague d'effroi aussi tangible que le courant d'air moite et glacé surgit d'une tombe. Le géant caprin voûté devant ses yeux lui parut soudain comme engendré par une autre planète ou une autre dimension, comme s'il s'agissait d'un être n'appartenant que partiellement à l'humanité, lié au gouffre noir abritant des essences et des entités qui s'étendaient telles de titanesques fantasmagories au-delà des sphères de la force et de la matière, de l'espace et du temps. À cet instant, Wilbur leva la tête et parla de cette voix étrange et sonore qui faisait soupçonner en lui des organes de vocalisation différents de ceux de l'espèce humaine ordinaire.
« Monsieur Armitage, je crois qu'il faut que je le livre chez moi. Il y a dedans des choses qu'il faut que j'essaie dans des certaines conditions que je peux pas les avoir là. Et ça serait péché mortel de laisser un règlement m'empêcher. Laissez-moi l'emprunter, monsieur, et jure que point personne il saura. J'ai pas besoin de vous dire que je saurais en prendre soin. C'est pas moi que j'ai mis l'exemplaire dit dans l'état qui est. »
Il s'arrêta en voyant l'expression résolue de refus sur le visage du conservateur, et ses propres traits de bouc se firent rusés. Armitage, qui s'apprêtait à lui dire de recopier tous les fragments dont il avait besoin, pensa soudain aux conséquences possibles de sa suggestion et s'en abstint. Le risque semblait trop grand de remettre à cette créature les clés permettant d'accéder à des sphères étrangères aussi blasphématoires. Whately comprit ce qu'il en était et s'efforça de réagir avec désinvolture.
« Bon, ben si vous le prenez comme ça, peut-être Harvard fera pas autant de tintouin. »
Sans rien ajouter, il se leva et sortit du bâtiment en baissant la tête à chaque pas de porte. Armitage entendit le grognement féroce du gros chien de garde et observa le pas simiesque de Whately qui traversait la petite portion du campus visible de la fenêtre. Il songea au récit délirant qu'on lui avait rapporté, se rappela les articles du dimanche parus dans l'Advertiser et les légendes qu'il avait recueillies auprès des paysans et des villageois de Dunwich au cours de son unique voyage là-bas. Des êtres invisibles étrangers à notre terre, du moins sa partie tridimensionnelle, se pressaient puants et horribles dans les combes de la Nouvelle-Angleterre et imposaient leur présence obscène au sommet des montagnes. Il en avait depuis longtemps la conviction, et à présent il lui semblait ressentir la présence toute proche d'un élément abominable de cette horreur envahissante, et entrevoir l'approche infernale d'une domination obscure de ces antiques cauchemars qui, jusque-là était resté passif. Il remit sous clé le Necronomicon avec un frisson de dégoût. Mais une puanteur anormale, impossible à identifier, flottait encore dans la pièce. « Tu les reconnaîtras à leur pestilence, » récita-t-il. Oui, cette puanteur était bien celle qui lui avait donné la nausée à la ferme Watley, moins de 3 ans auparavant. Armitage repensa à Wilbur avec son allure menaçante de bouc et éclata d'un rire railleur en se rappelant les rumeurs du village quant à l'identité de son père. « La consanguinité, » maugréa-t-il à part lui. « Seigneur, quels imbéciles! Si on leur faisait lire le grand dieu Pan d'Arthur Bachen, ils n'y verraient qu'un des scandales ordinaires à Dunwich. Quel être, quelle maudite créature invisible sur ou hors de notre planète tridimensionnelle a donc engendré Wilbur Watley? Il est né à la Chandeleur, 9 mois après la nuit de Valpurgis de 1912, quand on a entendu parler jusqu'à Arkham d'étranges bruits souterrains dans les collines. Qu'est-ce qui a foulé le sommet des montagnes cette nuit de mai? Quelle horreur surgit à la fête de la croix, s'est attachée au monde dans un être de chair et de sang à moitié humain? Au cours des semaines qui suivirent, le docteur Armitage entreprit de rassembler toutes les informations connues sur Wilbur Watley et les présences invisibles hantant les collines autour de Dunwich. Il prit contact avec le docteur Houghton d'Aylesbury, celui qui avait assisté à l'agonie du vieux Watley, et les dernières paroles du grand-père que le médecin lui rapporta donnèrent beaucoup à penser au savant. Un voyage à Dunwich ne lui apprit pas grand-chose de neuf, mais une étude approfondie des passages du Necronomicon que Wilburg avait cherché si fiévreusement lui fournit de nouveaux et effrayants indices quant à la nature, les méthodes et les desseins de ce mal inconnu qui semblait menacer notre planète. Des discussions avec plusieurs spécialistes du folklore archaïque à Boston, des échanges épistolaires avec beaucoup d'autres un peu partout dans le pays, apportèrent à Armitage toujours plus de révélations étonnantes. Peu à peu, après être passé par divers degrés d'inquiétude, s'éveilla en son esprit une crainte des plus réelles. Tandis que l'été s'écoulait, la nécessité d'agir contre la terreur rampante gitant dans les hauteurs autour de la vallée de Miskatonic et contre l'être monstrueux connu dans le monde des humains sous le nom de Wilbur Watley commença à s'imposer dans l'esprit de l'univers. 6. L'horreur à Dunwich, proprement dite, se manifesta entre la fête de la moisson et l'équinoxe de 1928. Le docteur Armitage fut l'un des témoins de son abominable prologue. Il avait entre-temps eu vent de l'expédition ridicule de Watley à Cambridge et de ses efforts frénétiques en vue d'obtenir auprès de la bibliothèque Widner le prêt du Necronomicon, ou du moins l'autorisation d'en recopier des extraits. Le solliciteur s'était démené en vain parce qu'Armitage avait prévenu contre lui, dans les termes les plus vifs, tous les conservateurs ayant la garde de ce redoutable ouvrage. À Cambridge, Wilbur s'était montré extrêmement tendu, anxieux de pouvoir accéder au livre, mais presque aussi impatient de retourner chez lui, comme s'il craignait les conséquences de son absence prolongée. Début août se produisit la suite plus ou moins prévisible de ces événements. Durant les premières heures du 3 de ce mois, Armitage fut arraché au sommeil par les cris furieux du féroce chien de garde lâché sur le campus. Profond, épouvantable, les grondements, grognements et aboiements quasi déments se prolongèrent de manière toujours plus intense, même s'ils étaient entrecoupés de silences atrocement significatifs. Puis retentit un hurlement poussé par une gorge toute différente, un hurlement propre à réveiller tous les dormeurs d'Arkham et à hanter à tout jamais leurs rêves par la suite. Aucune créature terrestre, ou pleinement terrestre, n'aurait pu l'émettre. Armitage s'habilla à la hâte, se précipita de l'autre côté de la rue et traversa la pelouse jusqu'au bâtiment de l'université. Il remarqua alors que d'autres l'avaient devancé et entendit les échos de la stridente alarme de sécurité qui retentissait encore dans la bibliothèque. Sous le clair de lune, il vit une fenêtre ouverte bâillant sur les ténèbres. L'intrus avait certes pénétré dans les lieux, car les aboiements et les hurlements qui s'étaient à présent mués en grondements sourds et en gémissements provenaient sans équivoque de l'intérieur. Armitage comprit instinctivement qu'on ne pouvait permettre à des yeux non avertis d'apercevoir ce qui se déroulait dans cette salle. Aussi repoussa-t-il la foule avec autorité avant de déverrouiller la porte d'entrée. Parmi les personnes présentes, il remarqua le professeur Warren Rice et le docteur Francis Morgan, deux confrères à qui il avait fait part de certaines de ses hypothèses et inquiétudes. Il les invita du geste à l'accompagner à l'intérieur. Le bruit, mis à part la plainte monotone émise par le chien vigilant, avait à ce moment presque cessé, mais Armitage sursauta violemment quand il se rendit compte qu'un cœur retentissant, engoulevant, avait commencé à piailler d'une odieuse manière rythmée dans les buissons, comme à l'unisson des dernières exhalaisons d'un homme à l'agonie. Une affreuse puanteur, hélas bien connue du docteur Armitage, planait dans le bâtiment. Les trois universitaires traversèrent le vaste hall au pas de course jusqu'à la petite salle de lecture dédiée aux généalogies d'où provenait le gémissement du chien. Pendant un instant, personne n'osa allumer la lumière. Puis Armitage rassembla son courage et fit jouer l'interrupteur. L'un des trois compagnons, on ne sait trop lequel, cria à la vue de l'être allongé au milieu des tables déplacées et des chaises renversées. Le professeur Rice assure que, pendant une seconde, il perdit carrément conscience, même s'il ne vacilla pas ni ne s'effondra. La créature étendue sur le flanc, repliée sur elle-même dans une mare fétide de sécrétions jaunes verdâtres et de poids bitumineuses, mesurait près de 2 mètres 3 quarts. Le chien lui avait arraché tous ses habits et une partie de la peau. Elle n'était pas complètement morte, mais des spasmes silencieux la parcouraient, tandis que sa poitrine se soulevait à l'unisson monstrueux des piaillements déments des engoulevants au dehors. Des fragments de cuir provenant de ses chaussures et des morceaux de ses vêtements étaient éparpillés dans toute la pièce, et sous la fenêtre, un sac de toile vide gisait là où, de toute évidence, l'intrus l'avait jeté. Près du bureau principal, un revolver était tombé par terre. Une cartouche cabossée mais non explosée et devait indiquer plus tard pourquoi aucun coup de feu n'avait retenti. Mais c'était sur l'être lui-même, toutefois, que se focalisaient tous les regards. Ce serait un cliché inexact de le prétendre indescriptible selon les critères humains. Pourtant, on peut affirmer sans mentir que quiconque a des conceptions de l'aspect physique trop dépendantes des formes de vie communes sur notre planète et des trois dimensions connues risque de ne pas parvenir à le visualiser avec pertinence. La créature était partiellement humaine, sans aucun doute, munie de mains et d'une tête fort humaine, et l'absence de menton sur la face caprine marquait l'ascendance Watley. Mais le torse et la partie inférieure du corps présentaient un aspect digne des monstres les plus fabuleux. Il avait fallu une tenue élaborée pour lui permettre de fouler le sol de notre planète sans qu'on le combatte et qu'on l'élimine. Son torse, sur lequel reposaient encore les pattes vigilantes du chien qui l'avait déchiqueté, restait plus ou moins anthropomorphe, même s'il était couvert d'une peau épaisse et rugueuse, rappelant celle du crocodile ou de l'alligator. Le dos, tacheté de jaune et de noir, suggérait vaguement la parure squameuse de certains serpents. Mais le pire se situait en dessous de la taille. Là, toute apparence d'humanité laissait place au pur cauchemar. La peau était recouverte d'une épaisse fourrure noire, et une vingtaine de longs tentacules gris-verts, terminés par des ventouses rouges, pendaient mollement de l'abdomen. Ses appendices étaient disposés bizarrement, suivant, semble-t-il, les symétries d'une géométrie cosmique inconnue sur Terre, voire dans le système solaire. Sur chaque hanche, très enfoncée dans une espèce d'orbite rosâtre frangée de cils, apparaissait ce qui avait l'allure d'un œil rudimentaire. À l'emplacement où aurait pu se trouver une queue, pointait une sorte de trompe ou de tentacule constitué d'anneaux violets superposés, qui donnait l'impression de former une gorge ou une bouche ébauchée. Les membres inférieurs, mis à part leur fourrure noire, ressemblaient grossièrement aux pattes arrière des sauriens géants de l'époque préhistorique, et se terminaient par des coussinets aux veines saillantes, sans sabots ni griffes. À chaque respiration de la créature, la trompe et les tentacules changeaient de couleur, ce qui était sans doute une conséquence normale de la circulation de ce liquide verdâtre inhumain. Pour la queue, ce phénomène se manifestait entre les anneaux mauves par une morbide alternance d'une teinte jaunâtre et d'une autre blanc grisâtre. Il n'y avait pas de sang à proprement parler, rien que cet infect liquide jaune-vert qui s'écoulait goutte à goutte sur le parquet peint au-delà de la zone couverte par la substance noire collante, y laissant une curieuse décoloration. La présence des trois humains parut ranimer l'être mourant. Il se mit à marmonner sans toutefois tourner ni lever la tête. Le docteur Armitage ne transcrivit pas ce murmure, mais assure avec la plus grande fermeté qu'aucun mot anglais ne fut prononcé. Au début, les syllabes défièrent toute identification d'une quelconque langue terrestre, mais vers la fin, se firent entendre quelques bribes décousues, extraite sans doute du Necronomicon, le monstrueux ouvrage blasphématoire dont la quête avait causé la mort du monstre. Armitage se rappelle quelque chose comme
Nga, 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 Bug Shogog, Ia, Yog Sogot, Yog Sogot.
Ses balbutiements s'éteignirent tandis que les engoulevents intensifiaient leurs piaillements stridents, selon un crescendo rythmique plein d'une impatience maléfique. Puis la respiration haletante s'arrêta, et le chien leva la tête pour hurler longuement, lugubrement. Un changement apparut sur la face jaune et caprine de l'être prostré. Les grands yeux noirs s'enfoncèrent d'une affreuse manière dans leurs orbites. De l'autre côté de la fenêtre, les cris des oiseaux avaient cessé d'un seul coup. Par-dessus la rumeur de la foule qui s'était rassemblée à l'extérieur, on entendit le son d'un envol tourbillonnant, paniqué. Un grand nuage de ces psychopompes ailés s'éleva, silhouetté par la lune, avant de disparaître dans la nuit. Les oiseaux poursuivaient frénétiquement leur proie. Tout à coup, le chien se redressa sur ses pattes, poussa un aboiement effrayé et bondit tout agité par la fenêtre qui lui avait livré passage dans le bâtiment. Un cri s'éleva dans la foule, et le docteur Armitage vociféra à l'adresse des personnes à l'extérieur que nul ne devait entrer avant l'intervention de la police ou du médecin légiste. Il bénissait le ciel que les croisées fussent juste assez hautes pour empêcher les gens de voir à l'intérieur. Et il tira avec soin les rideaux devant chacune d'elles. Quand il eut terminé, deux agents de police étaient arrivés. Le docteur Morgan alla à leur rencontre dans le couloir et, pour leur propre bien, leur déconseilla fortement d'entrer dans la salle de lecture imprégnée de l'odeur méphitique avant qu'un médecin ne fût venu recouvrir le corps sans vie de la créature. Pendant ce temps, une métamorphose effroyable se produisait sur le sol. Inutile de décrire en détail la nature et la vitesse du recroquevillement puis de la désintégration qui eurent lieu sous les yeux du docteur Armitage et du professeur Rice. Mais il reste permis de supposer que, en dehors de l'apparence extérieure du visage et des mains, l'élément vraiment humain chez Wilbur Whately devait avoir été des plus réduits. Quand le médecin légiste se présenta, il ne subsistait plus sur les lattes peintes qu'une masse blanchâtre et collante. La puanteur monstrueuse s'était presque entièrement dissipée. Il semblait que Whatley n'ait eu ni crâne, ni squelette osseux, du moins pas de manière véritable ou permanente. Il tenait de son père inconnu.